depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos telles que l'histoire aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons présenter le journal et on commence avec le titre. La Force aérienne indonésienne exercice avec la Royal Australian Air Force pour renforcer la défense aérienne. Le ministre du Commerce a déclaré que le CEPA IEU serait achevé avant octobre 2024. L'Indonésie célébrera le 70e anniversaire de la conférence Asie-Afrique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. L'assistance aux opérations du chef d'état-major de la force aérienne, le vice-maréchal TNI Minggit Tribowo, a déclaré que l'entraînement conjoint en cours entre l'armée de l'air indonésienne et la Royal Australian Air Force pourrait être utile pour renforcer la défense aérienne entre les deux pays. Minggit, dans un communiqué de presse reçu vendredi, espère que cet exercice conjoint pourra se poursuivre et être amélioré à l'avenir. Considérant que cet exercice est très bénéfique pour les deux pays, en augmentant leur capacité et leur coopération militaire. Auparavant, le maréchal de l'air Minggit Tribowo a visité une formation conjointe avec l'armée de l'air indonésienne et la RAAF à la base aérienne Igusti Ngurah Rai à Bali. Non seulement cela augmente les capacités militaires des deux pays, Minggit estime que cette activité de formation conjointe peut également renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Australie. Le ministre du Commerce, M. Zulkifli Hasan, a déclaré que les négociations sur le partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne seraient achevées avant le 20 octobre 2024 ou avant le nouveau gouvernement. Zulkifli Hasan a déclaré vendredi à Jakarta qu'on espère que de nouvelles négociations auront lieu en juin. Le gouvernement indonésien continuera à les poursuivre afin qu'elles puissent être achevées conformément à l'objectif. Les négociations IEU-CEPA visent à ouvrir commerce entre l'Indonésie et l'Union européenne. Les deux bénéficieront économiquement de l'augmentation du produit intérieur brut réel. Pendant ce temps, l'adjoint à la coordination de la coopération économique internationale au ministère de coordination de l'économie, M. Edi Prio Pambudi, a déclaré que l'Indonésie et l'Union européenne se sont mises d'accord sur 11 questions sur un total de 21 questions lors du 18e siècle de négociations IEU-CEPA. Vous écoutez le journal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie organisera un événement pour célébrer le 70e anniversaire de la conférence Asie-Afrique le 6 juin. Cet événement portera sur le thème « La route vers la célébration du platine de la conférence Asie-Afrique ». Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, lors de sa participation à la célébration de la Journée de l'Afrique vendredi soir dans le centre de Jakarta, a déclaré que son parti voulait autonomiser la région du Sud en utilisant l'esprit de Bandung. Selon lui, l'événement vise à renforcer la solidarité des pays du Sud pour surmonter les défis mondiaux actuels. En plus d'encourager la croissance économique et la prospérité entre les pays asiatiques et africains, le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que les relations entre l'Indonésie et l'Afrique sont indissociables depuis la tenue de la conférence Asie-Afrique en 1955. L'Indonésie avec l'Afrique et d'autres pays asiatiques luttaient pour obtenir l'indépendance. Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la région Asie-Pacifique reste une priorité pour Washington. Rapporté par l'agence de presse AFP samedi, Lloyd a fait cette déclaration lors d'un important forum sur la sécurité à Singapour le lendemain de sa rencontre avec le ministre chinois de la Défense, Dong Jun. Il a lors du forum Dialogue Shangri-La devenu ces dernières années un baromètre des relations entre les États-Unis et la Chine, a souligné que les États-Unis ne peuvent être en sécurité que si l'Asie est sûre, et c'est pourquoi les États-Unis ont longtemps maintenu leur présence dans ce pays. Austin a ajouté que malgré les conflits historiques en Europe et au Moyen-Orient, la région Asie-Pacifique reste une zone opérationnelle prioritaire des États-Unis. Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré que le gouvernement israélien avait proposé une nouvelle feuille de route vers une paix permanente à Gaza. Rapporté par l'agence de presse AFP samedi, Biden a exhorté le Hamas d'accepter l'accord parce qu'il était le temps de mettre fin à cette guerre. Israël a proposé une nouvelle proposition globale. Il s'agit d'une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tout l'otage. Biden a ajouté que la responsabilité de la paix incombe à la milice de Hamas, donc l'attaque contre l'allié clé des États-Unis, Israël, a eu lieu le 7 octobre l'année dernière, déclenchant un violent conflit à Gaza. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. La première nouvelle du district de Pesisir Barat, Lampung. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Dito Aryo Tejo, a ouvert mardi la Ligue mondiale de surf Qui Pro 2024 à la place de Tanjung Setia, la résidence de Pesisir Barat, Lampung. Dans son discours, Dito a mentionné le projet du gouvernement de construire un centre de formation de surf à Lampung pour attirer les surfeurs de la région de Lampung. La raison en est que le sport de surf est désormais inclus en tant que branche des Jeux olympiques. Le ministère de la Jeunesse et des Sports soutient la Ligue mondiale de surf à Qui en Indonésie. Selon lui, la série de la Ligue mondiale de la surf à Qui sera une série avec d'autres provinces comme Bali, Lombok et d'autres régions. Cette compétition internationale de surf devient chaque année de plus en plus populaire auprès des athlètes professionnels étrangers. En 2022, cet événement a réuni 212 participants, puis en 2023, 259 participants, et en 2024, jusqu'à 2065 athlètes ont été enregistrés comme participants. La Ligue mondiale de surf Qui Pro 2024 a réuni 265 participants surfeurs de 20 pays et s'est tenue sur la place de Tanjung Setia du 28 mai jusqu'au 4 juin 2024. La nouvelle suivante vient de la région de Bulungan, dans le nord de Kalimantan. Le gouvernement de la Régence de Bouloungan, en collaboration avec Global Green Growth Institute, ou GGI, et Affaires Mondiales Canada, a mené lundi une enquête sur la vie des pêcheurs et l'écosystème de mangroves dans le delta de la rivière Kayan, faisant suite à un accord de coopération sur le développement vert durable. Lors d'une visite de la zone de mangroves du delta Kayan, qui fait l'objet du programme de conservation, plus précisément dans le village de Liagou, le district de Sekatak, les équipes d'Institut mondial de la croissance verte, ou GGI, et Affaires mondiales Canada, ou GAC, étaient accompagnées du chef de Bapeda, du chef de service environnemental de Bouloungan, le service forestier provincial de Kalimantan du Nord et KPH Tarakan. Ils ont mené des enquêtes sur la gestion, la protection et l'utilisation des zones côtières et des mangroves et ont discuté des obstacles et opportunités futures. L'un des principaux objectifs de cette visite était de comprendre la dépendance de la communauté aux forêts de mangroves. Les équipes de GGI et GAC Canada ont tenu des discussions avec des pêcheurs de subsistance du village de Liagou pour recueillir ces informations. Les équipes des deux organisations impliqueront tous les éléments de la société et du gouvernement local dans la mise en œuvre du programme de conservation des mangroves. Ils se concentreront également sur l'autonomisation des communautés dans les domaines économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur le maintien des aspects environnementaux pour le développement durable. Le programme de solutions basées sur la nature pour des moyens de subsistance intelligentes face au climat dans les paysages de mangroves de GGI Indonesia à Bouloungan prévoit 4 zones, à savoir les villages de Liagou, Sekatak, Sekatak Buji et Salim Batu. Les dernières nouvelles viennent d'Ambon, les Moluques. Le gouvernement provincial des Moluques collabore avec le gouvernement australien dans le but d'améliorer la qualité des ressources humaines de la région. Le gouverneur de par intérim des Moluques, Sadali à Ambon, a déclaré « Son parti, en collaboration avec le gouvernement australien, avait procédé jeudi à la socialisation de la troisième phase du programme d'innovation dans le but d'accroître l'intérêt des enfants » pour d'apprentissage dans les domaines alphabétisation, du calcul et du caractère via le développement de l'écosystème éducatif dans la province des Moluques. Au même endroit, le directeur du programme d'innovation de la troisième phase, Mark Hayward, a exprimé son objectif de travailler ensemble et d'améliorer les résultats d'apprentissage des enfants de cette province. Il a également souligné que le gouvernement australien s'engage également à contribuer à l'amélioration de la qualité des ressources humaines de l'Indonésie en tant que pays voisin. Chers amis, c'était les nouvelles de l'Indonésie. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 1er juin 1945. C'est l'anniversaire de Pancasila. Pancasila est la fondation de la République d'Indonésie. Le concept initial de Pancasila a été proposé par Sukarno lors de la deuxième session du comité d'enquête pour les efforts préparatoires à l'indépendance du 1er juin 1945. Citant par kemkeu.go.id, ce discours a été initialement prononcé par Sukarno par acclamation sans titre. Le terme de la naissance de Pancasila a été écrit par l'ancien président de l'agence d'enquête pour les efforts préparatoires à l'indépendance, M. Rajiman Widyodiningrat, dans l'avant-propos du livre qui contient un discours. Dans son discours, Sukarno a transmis ses pensées et ses idées concernant la base d'un État indonésien indépendant nommé Pancasila. Pancasila signifie « cinq » tandis que « sila » signifie « principe ». À cette époque, Bung Karno mentionnait cinq principes fondamentaux de l'État indonésien, à savoir le premier principe « nationalité », le deuxième principe « internationalisme ou humanité », le troisième principe « démocratie », le quatrième principe « justice sociale » et le cinquième principe « croyance en un Dieu tout-puissant ». L'anniversaire de Pancasila a ensuite été déclaré le jour férié national par le président Joko Widodo le 1er juin 2016. Le 1er juin célébré comme la Journée internationale de l'enfance. La Journée internationale de l'enfance est célébrée chaque 1er juin depuis 1950. La création de la Journée internationale de l'enfance a été réalisée lors du congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes à Moscou le 4 novembre 1949. La commémoration de la Journée internationale de l'enfance vise à protéger les droits des enfants, à mettre fin au travail des enfants et à garantir l'accès à l'éducation. Plusieurs pays commémorent la Journée internationale de l'enfance le 1er juin, à savoir l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Lettonie, la Russie, le Tadjikistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan. Le 1er juin 2019, le décès d'Ani Yudhoyono. Ani Yudhoyono était la première dame de la République d'Indonésie du 20 octobre 2004 jusqu'au 20 octobre 2014. Elle était épouse du 6e président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono. Auparavant, une femme dont le nom complet était Kristen Herawati souffrait d'un cancer du sang depuis début février 2019. Il suit un traitement intensif à Singapour. Le corps de la première dame indonésienne Ani Yudhoyono a été enterré au cimetière des Héros de Kalibata, au sud de Jakarta, le 2 juin 2019. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Mau tahu apa yang ada di mimpi? Aku mau menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana cara tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah. Oh.
Sesuai tujuan awak nu Voice of Indonesia de Lirunizi pur le monde. Sura sit web www.puangbuanyus.id. Ewa sila rubrik Monde Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sia kami de kadra kuang du monde, merci de ta fidel anak teranten la bua de Lirunizi di fuse de pi Jakarta. Ewa sila rubrik Monde Indonesia. Set fon nous allons vous présenter le ministre de commerce vis la trade expo Indonesia UTEI 2024. Pour enregistrer des transactions de 15 milliards de dollars américains. Le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, M. Zulkifli Hasan, a lancé vendredi la 39e Trade Expo Indonesia ou TEI au bureau du ministère du Commerce à Jakarta. TEI 2024 aura lieu du 9 au 12 octobre 2024 à Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang, Banten. Le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, est optimiste quant au fait que la transaction de la 39e Trade Expo Indonesia pourra atteindre 15 milliards de dollars américains. Il a expliqué qu'en profitant de l'élan de la reprise économique nationale, cette année, le ministère du Commerce vise cette valeur. Au cours du TEI 2023, le ministère du Commerce a réussi à enregistrer 30,5 milliards de dollars américains, soit équivalent de 473 billions de roupies. Ce chiffre a largement dépassé l'objectif prédéterminé de 11 milliards de dollars américains. Zulkifli a déclaré que les transactions réalisées l'année dernière étaient une réussite. Il estime que la Trade Expo Indonesia 2024 produira un potentiel plus élevé. Le ministère du Commerce vise également cette année le nombre de visiteurs à atteindre 30 000 personnes du monde entier et 1 000 exposants. Il espère que TEI 2024 pourra être un élan pour encourager une meilleure croissance économique. Le ministre du Commerce a déclaré que la Trade Expo Indonesia 2024 facilitera également des séminaires internationaux sur la politique commerciale mondiale.
Trade Expo Indonesia juga memfasilitasi nanti kesempatan business matching.
Trade Expo Indonesia facilitera également les opportunités de jumelage d'affaires, conseil aux entreprises, séminaires internationaux liés à diverses informations sur la politique commerciale et aux tendances du marché mondial. Pendant ce temps, le directeur du développement des exportations nationales, M. Didi Soumedi, a déclaré que le TEI 2024 avait pour thème établir une connexion solide avec le meilleur de l'Indonésie. L'événement est organisé en trois zones qui présenteront divers produits indonésiens, à savoir la zone des produits alimentaires et des boissons ainsi que l'agriculture ou produits manufacturés et équipements pour la maison ainsi que la mode et les services. Didi Sumedi espère que Trade Expo Indonesia 2024 pourra être un événement visant à renforcer la position de l'Indonésie dans l'économie mondiale. Le TEI 2024 est également un moyen de renforcer la coopération avec les pays partenaires ainsi qu'une étape rapide pour les acteurs économiques indonésiens dans la pénétration du marché d'exportation. Le ministère du Commerce invite également les acteurs économiques des pays amis à participer au TEI 2024. Citant le rapport d'Antara mercredi, le vice-ministre du Commerce, M. Jerry Sambuaga, a invité les acteurs commerciaux de Chine à participer à la 39e exposition commerciale d'Indonésie. Jerry a révélé que la Chine était devenue le plus grand partenaire commercial de l'Indonésie au niveau mondial. La Chine est également la principale destination des exportations de l'Indonésie et le plus grand fournisseur de l'Indonésie. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Merci, chers amis, d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la place de Kartini située à Jepara, Java Central. La place de Kartini est située dans le village de Bulu à Jepara, dans le centre de Java, à 2,5 km à l'ouest du pavillon du bureau de région de Jepara. Cette zone de 3,5 hectares est une zone stratégique parce qu'elle constitue également une voie de transport maritime vers l'attraction touristique du parc marin national de Karimun Jawa. Selon la population locale, le nom Kartini vient du début du colonialisme néerlandais à laquelle Jepara était gouverné par un régent nommé Sosro Kartono, l'une des filles s'appelait Kartini. Kartini est une héroïne nationale qui s'est battue pour l'émancipation des femmes indonésiennes. Sur la base de cette histoire, le gouvernement local a alors décidé de donner le nom de la place Kartini à ce lieu touristique. La place de Kartini possède de nombreuses attractions. Chaque recoin de cette destination touristique est très instagrammable, ce qui donne envie aux touristes d'immortaliser la beauté de la plage. Ici, les visiteurs peuvent également simplement s'asseoir dans le belvédère, respirer l'air frais de la brise marine, tout en dégustant de la nourriture et des boissons. Sur la place de Kartini, les touristes peuvent également profiter de la beauté du lever et du coucher du soleil enchanteur. Pour ceux qui souhaitent passer la soirée avec des amis, vous pouvez également installer une tente sur la place. Cette place possède également le parc océanique de Tortue, qui est l'un des favoris sur cette plage. Les touristes peuvent explorer et trouver diverses informations sur les habitats sous-marins en Indonésie. Outre la statue de tortue géante intéressante à photographier, le parc océanique de Tortue, qui a 2 étages, peut être un lieu pédagogique permettant aux enfants de découvrir les différents habitats sous-marins. L'emplacement de cette place Kartini à Jepara, environ 10 minutes du centre-ville de Jepara, peut être visité tous les jours, même le vendredi, c'est gratuit. Le meilleur moment pour visiter la place de Kartini est le matin et aussi le soir. Chers amis, c'était un magazine culturel de La Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons présenter l'équipe étudiante de l'Université Gadjah Mada remporte la première place au concours mondial d'entreprise sociale en Thaïlande. L'équipe étudiante de l'Université Gadjah Mada a réalisé une autre fière réussite en remportant la première place au concours mondial d'entreprise sociale 2024. Le concours est organisé par la Faculté d'administration des affaires de l'Université de technologie Raja Mangala Dishan en Thaïlande. L'équipe qui s'appelle Co-Powerment est composée d'étudiants de l'Université Gadjah Mada de plusieurs facultés. L'un des membres de l'équipe, qui s'appelle Salsabila, a déclaré que l'équipe de cette université a repris l'idée d'une entreprise sociale basée sur les produits agro-industriels et l'autonomisation en combinant le potentiel des ressources agricoles, l'autonomisation des communautés et l'économie biocirculaire verte. L'équipe Co-Powerment a créé une innovation socio-preneuriale pour développer le potentiel de la noix de coco en donnant aux femmes le moyen de la transformer en produits finis tels que l'huile de coco et l'huile végétalienne. Non seulement ils forment des femmes au foyer à bien transformer les produits, mais ils contribuent également à établir des liens avec des secteurs privés et gouvernemental. Le produit qui est développé a un potentiel d'exportation. Il est donc nécessaire de collaborer avec le secteur privé et le gouvernement. L'étape du concours est commencée par la présentation d'une proposition de travail mettant l'accent sur plusieurs critères de résolution des problèmes, d'impact de l'entreprise sociale, de caractère pratique, l'idée créative et de durabilité. Ensuite, l'équipe ayant les meilleures idées et propositions a été sélectionnée pour participer au tour final. L'équipe de l'Université Gadjah Mada a participé avec succès à la phase finale et a présenté son meilleur travail devant des juges de Taïwan, d'Indonésie et de Thaïlande. Lors de la phase finale, l'équipe de cette université a fait des présentations contre des concurrents de différents pays, dont trois équipes de Thaïlande et une autre équipe du Cambodge. Après un processus de jugement rigoureux, l'équipe de l'Université Gadjah Mada, Co-Powerment, a finalement remporté la première place. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt. Exécuté toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous présentons une chanson de Kroncong intitulée Mudah Saja, ou en français c'est facile, chantée par Orchestre Kroncong Live Music Entertainment. Mudah Saja a été popularisé par un groupe de musique de Yogyakarta, à savoir Sheila on 7, sorti en 2008. Cette chanson a été créée par Eros Chandra, qui n'est autre que le guitariste du groupe Sheila on 7. Cette chanson raconte de quelqu'un qui vit le chagrin d'être quitté par son idole du cœur et il essaie de sortir de l'état qu'il vit, mais ce n'est pas facile. Bon, chers auditeurs, voici Orchestre Kroncong Live Music Entertainment, dont le titre est « Mudah Saja » ou en français « C'est facile ». Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.